Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bon dimanche. Il est 13h, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Au programme aujourd'hui, et comme chaque dimanche, nous aurons de l'actualité, nous aurons de la culture et nous parlerons également de notre communauté, la communauté francophone en Australie. Mais pour débuter cette émission, eh bien passons à notre personnage de la semaine, l'actualité vue par une des personnes qui a marqué cette semaine.
French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment, en ligne.
Magistrat emblématique, François Molins a été la voix de la justice pendant les heures les plus sombres de la France. De l'affaire Mera aux attentats du 13 novembre, il incarne le sang-froid et la rigueur de l'État. Aujourd'hui, à la retraite, il continue de défendre ses convictions avec la même détermination. Et à l'occasion des 10 ans des attentats de Paris, il sera présent aux commémorations, symbole d'un engagement qui ne s'est jamais éteint. Les explications d'Iléana Guillochon.
Pendant 7 ans, il a incarné la voix de la justice face aux attentats qui ont bouleversé la France de 2012 à 2018. Aujourd'hui, il pourrait profiter d'une retraite bien méritée, mais non. À 72 ans, François Molins reste fidèle à ses valeurs, la démocratie, la justice et l'éthique. Un homme de rigueur, mais aussi de cœur, dont l'engagement ne s'est jamais éteint.
Quand vous êtes magistrat, que vous êtes amené à poursuivre ou à juger des gens qui ont commis des choses abominables, il y a quelque chose qui doit toujours être au cœur de la fonction que vous exercez. Vous devez toujours respecter d'abord les gens que vous poursuivez, que vous jugez ont des droits, et ils ont droit au respect de la dignité. C'est-à-dire que quoi qu'ils aient fait, quelle que soit la gravité de ce qu'ils ont fait, vous devez respecter leur dignité. Et ça, c'est quelque chose qui, encore une fois, qu'on ne peut pas oublier dans l'exercice de ce métier.
Et cette semaine, alors que la France commémore les 10 ans des attentats du 13 novembre, François Molins sera là, encore une fois, discret mais présent.
Je voudrais d'abord souligner l'efficacité de l'ensemble des enquêteurs de police, ainsi que des magistrats et fonctionnaires de mon parquet dans cette affaire.
C'est cette voix qui a accompagné, rassuré et tenu informé les Français dans les moments les plus sombres. François Molins aura servi la France pendant 46 ans. Entre 2012 et 2018, à chaque attentat, c'est lui qu'on voyait à la télévision. Costume sombre, ton précis, il informait sans jamais céder à l'émotion. 55 conférences de presse, toujours avec le même objectif, expliquer, rassurer, maintenir la confiance. De cette période, il est resté la voix des attentats. Né le 28 août 1953, François Molins a grandi dans une famille catalane dans les Pyrénées-Orientales. Des générations marquées par la guerre, son grand-père, médecin militaire à Verdun, n'a jamais parlé des horreurs qu'il avait vues. Cette pudeur face à la douleur, François Molins l'a héritée et elle l'a accompagné tout au long de sa carrière. Titulaire d'une maîtrise en droit et ancien élève de l'École nationale de la magistrature, promotion 1977, il débute sa carrière en 1979 comme substitut du procureur à Carcassonne. Et au fil des années, il gravit les échelons. Montbrison, Villefranche-sur-Saône, Bastia, puis Lyon, où il devient secrétaire général du parquet. En 1996, il est nommé premier procureur adjoint à Lyon, chargé du suivi de l'action publique et de la lutte contre le trafic de stupéfiants et la criminalité organisée. Il poursuit ensuite sa carrière à Angers, puis à Bobigny, avant de rejoindre le ministère de la Justice comme directeur adjoint des affaires criminelles, puis directeur de cabinet des ministères Michel Alliot-Marie et Michel Mercier, de la catastrophe de Furiani au shérif de la Duchère à l'affaire Ziad Ebouna, Il y traitera également plusieurs affaires politico-financières dont il militera par la suite pour que le parquet soit plus indépendant.
Le soin que j'ai eu, effectivement, a marqué cette indépendance du travail du procureur dans la gestion des affaires individuelles. Et des pressions, il n'y a plus de pressions qui sont venues interférer, effectivement, sur le cours des décisions que j'ai été amené à prendre dans le cadre de ces affaires.
En 2011, il est nommé procureur de la République à Paris, un poste qu'il occupera jusqu'en 2018. Et c'est là qu'il se fait connaître du grand public, notamment pour la gestion des attentats terroristes, ceux de 2012 avec l'affaire Merah, de 2015 Charlie Hebdo, l'hypercacher, le Bataclan et le Stade de France, puis ceux de Nice, de Saint-Étienne, du Rouvray et enfin des Champs-Élysées en 2017. Des événements qu'il qualifiera, sans hésitation, de plus grandes. Le 13 novembre 2015, ce soir-là à Paris, le temps s'est figé. Les équipes d'intervention découvrent l'insoutenable. François Molins expliquera être rentré par trois fois à l'intérieur du Bataclan.
Je m'accorde deux ou trois minutes de recueillement, voilà, dans mon fort intérieur, et puis après je repasse à mon exercice professionnel.
Et malgré les scènes terribles auxquelles il a pu assister, François Molins croit toujours en la justice.
Mais je pense que quand on est magistrat, on n'est pas là pour être justicier ou vengeur masqué. Hein. C'est pas notre office. L'office du magistrat, c'est de contribuer à la justice et de rendre des jugements qui soient les plus éclairés, les plus raisonnables et les plus équitables possibles. On n'est pas dans la vengeance.
Et depuis novembre 2018, François Molins devient l'un des plus hauts magistrats du pays. Il est procureur général près la Cour de cassation, sa dernière fonction avant de prendre sa retraite en 2023. Toujours actif, François Molins enseigne le droit du terrorisme, participe à des conférences, voyages, écrit. Engagé, il dénonce la dégradation des hôpitaux, des prisons et les attaques politiques visant la justice. Il est également auteur de plusieurs ouvrages, Au nom du peuple français en 2024, où il retrace sa carrière, puis pratique judiciaire du contre-terrorisme en 2025. Il continue de faire entendre sa voix et son expérience. Il préside également l'Observatoire du futur musée mémorial du terrorisme, un projet qui lui tient tout particulièrement à cœur. Et désormais loin de la Cour de cassation, ses convictions ne faiblissent pas. Il est certes à la retraite, mais toujours au service de la justice et fidèle à l'état de droit.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Se débride, puis boit la gourde à moitié vide. Le ciel et l'eau se font détresse. Il s'empare d'une lame invisible, puis solennellement désigne le port où s'allie.
Benjamin Biolay, l'un des plus prolifiques auteurs-compositeurs pour la scène française à l'heure actuelle, Benjamin Biolay et sa chanson Le Penseur. Courte pause et on se retrouve dans quelques instants.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Shark Bay en Australie-Occidentale est un point de rencontre entre les savoirs autochtones et les sciences marines. Reportage de SBS News. Un innovateur des Premières Nations a été récompensé pour ses travaux scientifiques novateurs et ses connaissances sur le milieu marin autochtone lors de la 26e édition des prix du Premier ministre pour la science. Le professeur Michael Ware dirige un projet de restauration des herbiers marins, une première mondiale qui emploie des plongeurs autochtones, crée des moyens de subsistance durables et ravive les liens culturels avec l'océan.
Well, I'm particularly proud to have the opportunity to be Prime Minister announcing the first ever Prime Minister's Prize for Aboriginal and Torres Strait Islander Knowledge Systems. And the winner, the inaugural winner, but not certainly not the last, for 2025 is Professor Michael Weir.
La science occidentale reconnaît la valeur des savoirs autochtones. Le professeur Michael Weir est le premier lauréat du prix du Premier ministre pour les systèmes de connaissances des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres.
It's amazing. I think it's a humble feeling I got, but I always want to make sure that I do my best and I'm the first, but I don't want to be the last. So it's a big task ahead for me.
Le professeur Weir est un gardien traditionnel de la communauté de Malgana de Shark Bay en Australie-Occidentale. Il est également le fondateur de Tidal Moon, la première entreprise australienne de pêche aux concombres de mer et de restauration marine appartenant aux autochtones.
Well, the sea cucumber is Australia's first trade, so I wanted to recreate Australia's first trade and bring it to like a post-colonized world. But right now they're being bought by the Chinese. We have a Singaporean buyer who sends them up to China, but we're trying to pivot the market towards the West and develop health and beauty products.
Les concombres de mer sont le plus ancien produit d'exportation de ce pays. Les Premières Nations de la terre d'Arnhem les échangeaient avec les Makassars. Ces concombres sont utilisés comme aliments, notamment dans la cuisine asiatique et en médecine traditionnelle pour soigner de nombreuses maladies.
Well, sea cucumbers have great amino acids, they have good protein, they're full of collagen, good stuff for the gut, and they're also good stuff for your skin. We're at the early stages, but we've done some reports with CSIRO, the Harry Butler Institute, the Harry Perkins Institute, and the future looks good, but we've got to do more research, and that's where the Western science and traditional knowledge comes together.
Sous la direction du professeur Ware, Tidal Moon s'associe à des scientifiques pour un projet inédit au monde visant à restaurer les herbiers marins.
We want to bring a cultural directed solution to the world to show how we can restore our sea meadows in Shark Bay. And hopefully we're doing a good job so far because we've just been awarded a 13-year translocation permit. And it's been hard work, but I said last night, when merit meets opportunity, good things can happen.
Les plongeurs autochtones jouent un rôle de premier plan dans l'observation environnementale et la restauration des herbiers marins.
Seagrass is very important to Shark Bay. It also filters a lot of the nutrients through. It stops currents. It stores carbon. There's ancient carbon beneath the sea meadows as well. So it plays a very vital role for both climate, biodiversity and traditional knowledge and custodians.
Une innovation qui place les systèmes de connaissances autochtones au premier plan de la conservation marine. Ce reportage de SBS News de Michael Rennie, présenté par Jean-Noël Ducasse pour SBS French.
Votre communauté, vos conversations. SBS French. Donnez votre opinion sur les sujets qui vous intéressent. Envoyez un SMS au 04 88 79 93 23 ou rejoignez notre page Facebook pour participer à la conversation.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Eh bien, aujourd'hui, on va parler de champagne. C'est toujours un plaisir de parler de champagne à l'antenne de Radio SBS. On a Nathalie Vranken avec nous, Madame Pommery. Vous êtes propriétaire de la maison Pommery.
Oui, merci de nous recevoir.
Et vous étiez venu chez nous il y a longtemps, il y a un petit, on était en train de discuter justement, c'était il y a plus de 10 ans. Vous étiez déjà passé chez SBS.
Oui, sûrement presque même 15.
Vous n'avez pas changé.
Merci, vous non plus.
Bah, tant mieux. Le champagne, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la tradition française. C'est dans l'ADN des Français. Parlez-nous un petit peu de la maison Pommery. Elle fait partie des grandes maisons de champagne, tout simplement.
Nous sommes une maison qui a été fondée en 1836. Mmh. Donc nous avons une particularité, c'est qu'elle a été menée tambour battant par une femme. Madame Pommery a, elle, créé le brut, c'est-à-dire le premier champagne, digne de cet apéritif qu'il a conquis à travers le monde en 1874. Donc c'est une histoire longue et merveilleuse. Et oui, le champagne, c'est dans l'ADN de la France parce que nous aimons les célébrations, nous aimons l'émotion et nous aimons partager. Et
d'accord.
C'est ça le champagne.
C'est ça le champagne. Et ça, c'est depuis le début du champagne, l'essence du champagne, le vin, quand il a été créé, il a tout de suite été attaché à cette notion de célébration, cette notion festive.
Oui, on le doit à Madame de Pompadour. Mmh. C'est la marquise qui disait que le champagne faisait du bien aux femmes parce qu'il leur apportait un peu de rose aux joues. Et depuis lors, tout le monde pense que le champagne est ça, est l'émotion. Et on ne boit pas du champagne comme on boit du vin.
Non.
On se souvient de ce que l'on a bu et à quel moment. Parce que tous les grands moments de notre vie sont jalonnés par des coupes de champagne.
Vous parlez beaucoup des femmes. C'est vrai que il y a une relation justement avec le champagne. Et la féminité. C'est vrai de dire ça?
Oui, parce que probablement pendant très longtemps, dans la culture de nos pays, même de l'Europe, il y avait une restriction toujours chez les femmes de ne pouvoir pas boire, en tout cas pas en public et pas autant que pouvait le faire un homme. C'était valable pour la boisson, c'était valable pour des tas d'autres choses. Et donc je pense que le champagne a toujours bénéficié de ce petit traitement à part qui permettait aux femmes de pouvoir avoir un moment aussi de joie avec le champagne. Oui, je crois que c'était assez différent.
Alors parlez-nous un petit peu de la création justement de la maison Pommery. Vous avez dit qu'il y a une femme qui est essentielle à la base de cette création. Quand on se rend en Champagne et l'avenue de Champagne d'ailleurs qui est super belle, est-ce qu'on sent que toute la région, c'est un produit qui est ancré dans un terroir, il y a une certaine limitation et on va en parler sûrement dans quelques instants, mais la création de cette maison Pommery au sein justement de ce terroir, parlez-nous-en.
Alors, elle en hérite. Son mari disparaît prématurément et donc elle se retrouve jeune veuve avec une décision à prendre. Est-ce que je continue ou est-ce que je ne continue pas? Il faut savoir que lorsqu'on est au milieu du 19e siècle, pour être une femme, eh bien, on ne peut pas rien faire. On n'a pas accès à l'argent, on n'a pas accès à rien, puisque c'est votre père qui vous donne à votre mari. Et il n'y a que le statut de veuve qui permet à une femme d'avoir un minimum d'autonomie et d'indépendance. Et ça, Madame Pommery ne va pas le resacrifier et elle va l'utiliser et décider de se substituer à son mari, ce qui est une sorte de révolution à l'époque, puisque cet accès à l'entrepreneuriat ne leur est pas acquis facilement. Et donc, elle va créer avec son brut la chaîne économique du champagne telle qu'il existe aujourd'hui, en donnant une date de vendange précise, en amenant les raisins sur des pressoirs à différentes localisations de la région parce que c'était l'origine des raisins qui primaient. Puis elle va construire le domaine pour y élaborer, élever et faire vieillir en cave son vin. Donc elle va créer cette chaîne économique qui régit aujourd'hui toujours les 30 000 hectares que forme la Champagne.
Alors on va pas parler forcément d'autres marques de champagne, mais on va parler des veuves. Il y a une autre veuve assez connue dans le champagne qui est la veuve Clicquot. Comment elle s'entendait?
C'est pas du tout à la même époque.
C'est pas du tout à la même époque. Elles ne se sont pas croisées.
Non, elles se sont pas
croisées.
Ça répond
à ma question.
C'était pas la même époque.
Ça répond à ma question. Pommery aujourd'hui, c'est une entreprise qui vend à travers le monde. Il y a quelque temps, la dernière fois d'ailleurs, on s'était parlé. Donc il y a un moment, vous aviez sorti ces bouteilles pop. Est-ce que l'objectif était de rendre le format et la consommation encore plus festive?
Non, je pense que c'était le nomadisme qui primait à l'idée de ces petites bouteilles de pop. C'est que justement, on pouvait célébrer à d'autres endroits ou à d'autres moments et avec un format qui n'étaient pas obligés d'avoir une très grande convivialité. C'est-à-dire que pour ouvrir une grande bouteille, faut être au moins trois ou quatre. Pour ouvrir une petite bouteille dans laquelle il y a deux verres, il y a la possibilité de partager quelque chose, mais à moindre échelle.
Parce que la petite cuillère dans la bouteille de champagne, ça fonctionne ou ça fonctionne pas?
Mais tout ce auquel on croit fonctionne. Tout ce que nous ont appris nos grand-mères fonctionne.
Et donc cette histoire qui, vous nous dites, est écrite dans l'ADN des Français, c'est quoi l'avenir de Pommery? Et je crois qu'on a une annonce qui a été faite aujourd'hui. Il y a cette liaison et cet attachement avec l'Opéra de Sydney, qui est aussi un endroit iconique pour l'Australie.
Oui, mais c'est un endroit iconique pour le monde entier. Ouais. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits, à l'image de la Tour Eiffel, que le monde entier a vu au moins une fois dans sa vie. Mm-hmm. Et l'Opéra de Sydney en fait partie.
Et l'Australie, pour vous, c'est un endroit qui vous venez assez souvent. Vous avez une relation un peu spéciale avec l'Australie.
Je viens chaque année.
Chaque année.
Chaque année. Mais vous ne venez pas me voir, vous, chaque année.
Bah non, moi, je passe en Champagne quand il y a le Tour de France.
Mais j'invite tous les Australiens et tous les Français d'Australie qui nous écoutent à venir voir le domaine. Mais oui, je viens chaque année et je pense que c'est un des pays encore le plus... C'est le dernier pays de pionniers ici. Mm-hmm.
Et si on extrapole un peu là-dessus, les tensions mondiales avec les tarifs américains, tout ça, c'est un casse-tête pour vous. Comment vous gérez ça? Parce que c'est un produit spécifique. On l'a dit, le champagne, c'est pas quelque chose qui peut être produit ailleurs. C'est pas quelque chose. C'est vraiment, il y a un terroir, il y a un attachement à ce qui est aujourd'hui un champagne. Tout ce qui n'est pas fait à cet endroit n'est pas du champagne. L'impact tarifaire américain pour vous, ça a été comment?
Mais ça a toujours été, je parle pas du tarif spécial de l'Amérique, mais une grande partie de mon job à moi, c'est de visualiser ces grands changements du monde. Il y a des démocraties qui se referment, il y a des pays qui s'ouvrent, il y a des mouvements. Aujourd'hui, on n'a plus la Russie, on a travaillé énormément avec la Russie. Pour moi, il y a plus d'impact à ne plus travailler avec la Russie en Europe que l'impact tarifaire. Donc oui, on doit apprendre à bouger, on doit garder cette flexibilité. Est-ce que le monde est fait pour s'ouvrir de plus en plus? Non, je pense que le monde se réduit de plus en plus.
Et est-ce que la consommation, la réponse c'est sûrement oui, mais on va juste détailler un petit peu ça. La consommation mondiale a bougé. Est-ce que l'Asie consomme beaucoup plus de champagne qu'il y a 10 ans? Où est-ce que ça s'ouvre?
Alors l'Asie consomme plus de champagne qu'il y a 10 ans, mais la Chine ne consomme plus du tout.
D'accord.
Et donc la Chine n'a jamais été un très grand marché et ne l'est plus. La Chine représente sur les 300 millions de bouteilles de champagne, même plus 1 million de bouteilles de champagne.
D'accord.
Donc voilà, c'est des choses qui bougent. Alors oui, on vend plus à Singapour, on ne vend plus à Hong Kong.
Ah, ça c'est intéressant, oui. Parce que le rattachement à la Chine. Oui.
Ben oui, bien sûr. Donc certainement, on vendra plus en Thaïlande demain. C'est à nous d'évoluer et de faire les choses. Mais ici, la chance qu'on a en Australie, c'est qu'ici, les gens sont heureux.
On fait la fête.
Tout le temps. Et d'ailleurs, vous avez un leitmotiv. Le seul mot formidable qu'il faut retenir de l'Australie, c'est « no worries ».
Exactement, exactly. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure de vivre en Australie. Pour conclure cet entretien, l'avenir de Pommery. Est-ce qu'il y a une complexité d'emmener les traditions dans le futur? Parce que est-ce qu'on est à un point de rupture dans la sociologie aujourd'hui, avec beaucoup plus de jeunes, l'instantanéité, le côté réseaux sociaux, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est une opportunité pour Pommery et pour le monde du champagne tant que tel, emmener ces traditions dans un monde moderne?
Je sais pas si je suis tellement traditionnelle, mais c'est pas parce que ils feront des selfies avec un verre de champagne qu'ils n'auront pas plaisir à le faire. Je pense que ce qui est mon métier, c'est de continuer à dire que ce que je vends avant tout, c'est du rêve et de l'émotion.
Eh ben, on va rester là-dessus. Merci d'être venu nous voir. Si vous venez tous les ans, vous êtes bienvenus tous les ans.
Et bien, alors, à l'année prochaine.
On va pas attendre 15 ans.
Avec plaisir.
À l'année prochaine. Merci.
Merci à vous.
SBS Food a tous les ingrédients pour votre prochain repas. Vous y trouverez des milliers de recettes issues des cuisines du monde. Essayez les petits plats des experts de SBS Food et regardez comment ils les réalisent pas à pas. sbs.com.au/food.
Vanessa Paradis et sa chanson Le Retour des Beaux Jours, on l'espère en tout cas. Courte pause, on se retrouve dans quelques instants.
Détendez-vous en découvrant la musique du monde sur SBS Chill. Sur votre télévision et votre radio numérique, en ligne et sur votre smartphone. sbs.com.au/chill. Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Le gouverneur d'Australie-Occidentale a présenté des excuses pour le rôle de son prédécesseur dans une violente attaque menée par l'État contre des hommes, des femmes et les enfants de la communauté Noongar il y a près de 200 ans, connue sous le nom du massacre de Pinjarra. Les descendants du peuple Binjareb et du peuple Noongar ont reçu les excuses tant attendues, affirmant qu'il s'agissait d'un pas significatif vers la réconciliation. Reportage de SBS News. Avertissement, les auditeurs aborigènes et insulaires du détroit de Torres sont informés que l'histoire suivante contient des thèmes et un contenu affligeant. À environ une heure de route au sud de Perth se trouve la ville de Pinjarra en Australie-Occidentale. Site de l'une des premières colonies européennes d'Australie-Occidentale, son emplacement le long de la rivière Murray signifiait que le sol était riche et fertile. C'est dans cette même rivière, en 1834, que le tout premier gouverneur de Western Australia, James Stirling, a dirigé le massacre de jusqu'à 80 personnes des communautés Binjareb et de Noongar. Près de 200 ans plus tard, le 34e gouverneur d'Australie-Occidentale, Chris Dawson, s'est excusé.
I come with my heart, my court, to say sorry. I come here today to say sorry for the dreadful wrongs perpetrated by the first governor of Western Australia, Sir James Stirling, to Binjareb Noongar people on this budget. To me, that meant telling the truth in all its complexities of the past in order to heal in the present and do all I could to contribute to the growth of trust and reconciliation.
Dans les années 1830, les colons européens autour de Pinjarra se sont heurtés à une forte résistance à leur prise de contrôle colonial qui était assez violente. Voulant envoyer un message fort à ceux qui résistent à leur invasion, le gouverneur colonial James Stirling a mené 25 hommes armés dans la région pour tuer tous les autochtones sur leur chemin. Ils ont encerclé un groupe d'hommes, de femmes et d'enfants sur les rives de la rivière. Stirling et sa bande d'hommes ont ouvert le feu sur le groupe avant de rassembler et d'enlever les survivants. Chaque année, au mois d'octobre, des groupes se réunissent pour leur rendre hommage. La propriétaire traditionnelle, Carrie Ann Keering, affirme que ces excuses sont un énorme pas en avant.
It's a giant step. It's so significant that, you know, I'm still trying to process it.
Bien que les excuses marquent une étape importante vers la réconciliation, les souvenirs du massacre de Pinjarra persistent. Les noms de lieux dans toute l'Australie-Occidentale portent encore le nom de Stirling. Des statues aux villes, des écoles aux chaînes de montagnes, le nom de Stirling résonne encore largement dans tout l'État. Liés à cette atrocité terrifiante, nombreux sont ceux qui demandent que ces points de repère soient rebaptisés. Pour Carrie Ann Keering, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.
To all of us now and the upcoming generations, this is not the end where we have completed or what we have completed. What we are doing is the start of a new chapter of working together and to create a memorial for our people.
La cérémonie a été marquée par un échange d'arbres, symbole de la réconciliation en cours. un olivier cultivé à partir d'un arbre planté par le gouverneur Stirling vers 1835 a été donné au propriétaire traditionnel. En échange, un arbre Jarrah des terres de Binjareb sera planté sur le terrain de Government House. Pour le gouverneur Chris Dawson, le temps de la vérité sur le passé est bel et bien arrivé.
I say sorry to the Binjareb people who still feel the trauma of the punishment inflicted on their ancestors that day when so many innocent lives were taken. The time has come and the time is right for the governor to acknowledge the truth of the past actions of a predecessor. I have a deep hope and faith that a process of healing and growth will follow. I believe this action will be a significant step along the pathway to meaningful reconciliation.
Ce reportage de SBS News de Sydney Lang et de Josh Van Staden a été présenté par Jean-Noël Ducasse pour SBS French.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.
Les yeux de la tête, la maison des âmes, en ce samedi sur Radio SBS. Courte pause et on parle de musique africaine tout de suite après ça.
Vous pouvez nous écouter quand vous le souhaitez. Téléchargez émissions, interviews et actualités à la demande. Visitez la page sbs.com.au/french. Vous êtes avec Radio SBS en français.
Eh bien, aujourd'hui, nous avons le plaisir dans notre programme sur Radio SBS de parler à un grand monsieur de la musique africaine, Sekou Keita. Bonjour, vous êtes en Australie.
Bonjour, oui, bien sûr que je suis en Australie, bien arrivé.
Bien arrivé, c'est sûr. Alors, il y a des concerts qui arrivent à Melbourne. D'abord, on va parler de vous. Parlez-nous un petit peu de votre musique et aussi de votre instrument, la kora. C'est un instrument tellement typique en Afrique.
Oui, en fait, c'est un instrument qui date du XIIIe siècle. Un instrument qui a bercé les rois du XIIIe siècle jusqu'à nos jours, des baptêmes, des cérémonies de mariage dans la cour royale, qui est sortie dehors des frontières africaines. Et aujourd'hui, elle est arrivée à Melbourne. Voilà, et un instrument que j'ai appris à Bazaz, qui j'étais formé par mon grand-père, qui est mon mentor, qui m'a déjà appris les bases d'abord, comment faire ma propre kora, construire une kora, avant même de commencer les morceaux traditionnels. Donc mon cas, comme mon nom de famille le porte bien, la famille Keita, une famille connue, famille royale.
Famille royale du Mali, hein, je crois. Hein.
Du Mandin, on parle. Voilà, du Mandin, quand on dit Mandin, on parle des... 11 pays de l'Afrique de l'Ouest. À l'époque, c'était pas. Aujourd'hui, c'est des pays. Avant, c'était un empire. Donc là où Mali était considéré comme la capitale du Mandingue. Donc j'ai eu cette chance parce que normalement, de côté de mon père, j'ai pas droit à la kora ou de chanter. J'ai pas droit à la musique parce que c'est une famille royale qui reçoit l'entertainment, comme on le dit, mais qui ne joue pas ou ne chante pas. Mm-hmm. Mais j'ai eu la chance d'être grandi dans la famille de ma mère, que j'ai l'héritage de ma mère, qui est la famille Sissoko, qui m'a formé depuis bas âge, la musique traditionnelle de chez nous. Et aujourd'hui, je pense que c'est rare de Keita qui fait la kora. Voilà.
D'accord. Est-ce que vous auriez pu imaginer une vie sans musique? Parce que c'est tellement important pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous asseoir 2 minutes et réfléchir si vous n'aviez pas pu faire de la musique?
C'est une question très importante. La réponse, ça serait impossible. Je ne saurais pas comment même répondre à cette question. Sans la musique, je ne sais pas qui je serais. Parce que la musique m'a bercé depuis mon enfance. Et toujours la musique, je suis sûr que jusqu'à mes derniers souffles, ça sera avec la musique.
Eh ben nous, en tout cas, le public, on est très content que vous ayez le droit de jouer de la musique. On va en parler. Vous allez jouer à Melbourne. Vous êtes connu à travers la planète. Il y a vraiment un engouement autour de cette musique et cette culture. Je veux pas dire musique du monde parce que c'est un peu c'est derogatory, on va dire en anglais, de dire musique du monde, mais ça réduit trop. Mais votre musique, la musique du cœur de l'Afrique, elle est reconnue à travers la planète.
Ben ouais, bien sûr. Comme vous l'avez bien dit, moi je dis tout le temps, il y a deux sortes de musique dans ce monde entier. Il y a la bonne musique et il y a pas très bonne musique aussi, c'est les deux. Donc quand
on peut dire la mauvaise musique, hein, c'est pas un problème.
Voilà, ouais. Et on ne peut pas dire mauvaise musique parce que soit c'est les goûts. Donc aujourd'hui,
oui, c'est vrai.
Ouais, voilà, ça réduit un peu parce qu'en fait la musique, moi aujourd'hui dans le monde entier avec les collaborations que j'ai fait, je regarde toujours la similarité avec ce qu'on fait et célébrer nos différences surtout parce que aujourd'hui être joueur de kora, venir à Melbourne et rencontrer, revoir même un cousin à moi, un frère, Amadou Sousso, de partager la scène avec ces deux, de faire nous ressourcer, mais aussi avec une ouverture d'adaptation du 21e siècle. Donc, la musique aujourd'hui, africaine, comme on le dit, ou la musique de la kora, du mandingue, est un peu partout. On disait, le mandingue dans l'Afrique de l'Ouest, en général, l'Afrique est comme Rome en Europe, en fait. Côté culture et côté musique aussi. Donc ça, c'est important. Et cette musique est déjà un peu partout dans l'Afrique. Et aujourd'hui, on le reçoit un peu partout dans le monde entier. J'ai hâte d'être sur scène avec lui et de jouer pour le public de Melbourne, ici en Australie.
Ouais, votre surnom, on vous a beaucoup nommé le Hendrix de la kora. Le Jimi Hendrix de la kora. Il y a pire comme comparaison.
Écoute, c'est un nom, je l'accepte. C'est un nom, je l'accepte. Je
pense c'est pas mauvais, hein?
Non, parce que c'est pas mauvais du tout. C'est le problème, pas de souci. C'est un surnom qui a pris tout le temps. Je sais pas pourquoi, peut-être c'est mes techniques, mon approche et tout. Mais voilà, je l'accepte.
Vous avez joué avec les BBC Proms, vous avez joué au WOMA, de même Glastonbury. C'est quand même des scènes incroyables. C'était comment pour vous d'emmener votre instrument qui est quand même très local, vous dites qui est souvent fait à la main, sur des scènes comme Glastonbury ou encore les BBC Proms? C'est incroyable.
C'est un privilège, il faut le dire. En fait, et ce qui est important en allant vers ces grandes scènes, moi, je garde toujours mon identité, c'est la kora. Je suis connecté avec cet instrument, fais ce que j'aime toujours faire et ce qui me va au cœur. Et comme on dit, tout ce qui vient dans un cœur peut partir dans un autre cœur. Donc, je pense que c'est l'accès que j'ai souvent par rapport à ces scènes et la collaboration avec la BBC, orchestre, le prom, comme vous l'avez dit, Glastonbury, autres, comme au Madeleine, ou tout le temps. C'est surtout ça, et les collaborations du monde, comme je disais tout à l'heure. J'adore, et mes premières sorties en 96, c'était ma collaboration avec d'autres artistes que j'ai découvert dans le pays scandinave, comme les musiciens de la Norvège, les musiciens indiens, aussi des musiciens cubains. Donc, tout ça, c'est, en fait, ça m'inspire, et c'est un ajout sur la musique que j'ai eue, la base que j'ai eue, si tu veux, depuis la musique traditionnelle de la kora. Donc, dans ces scènes-là aussi, je me balade avec la musique que je connais, avec ce que j'aime faire, et que ce que aussi le public reçoit. Donc c'est parti comme ça. L'amour, c'est ma connexion entre l'instrument et ma musique en général.
Vous parlez de connexion avec d'autres artistes à travers le monde. Est-ce que la musique indigène australienne, donc la musique aborigène, vous intéresse? Est-ce qu'il peut y avoir des collaborations? Et on va pas réduire tout au didgeridoo parce qu'il y a d'autres instruments, mais bon, c'est l'instrument phare que tout le monde connaît. Est-ce que pour vous il y a un intérêt d'échanger et essayer de voir s'il y a quelque chose qui peut être complémentaire avec la kora?
Écoute, moi, je suis toujours curieux avec la musique, surtout avec d'autres musiques, d'autres cultures. Ça, c'est une curiosité que j'ai depuis mon enfance. Donc, mon instrument, je l'amène partout et j'essaie de voir. Il y a des collaborations qui marchent très bien. Il y a ceux qui marchent moins. Maintenant, ça dépend avec qui tu collabores. Parce que c'est aussi l'humain, la personne derrière son instrument est très important. Open-minded, qu'il est ouvert, c'est possible qu'il y a des choses qui se passent. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans la musique australienne, comme le didgeridoo. plusieurs autres instruments qui sont là. J'en ai fait de jam, comme on le dit, de bœuf, mais pas en côté level, comme sortir un single ou un album là-dessus. Et ça, c'est des choses que je cherche toujours, et ça va venir, Inch'Allah, comme on dit. Et je les cherche toujours parce que pour moi, c'est important. Pour moi, tous ces instruments, ils ont quelque chose à raconter. Ils ont leurs paroles, ils ont quelque chose à dire. Donc, si on se donne la vertu, c'est comme une conversation que j'ai aujourd'hui avec toi, qui est importante. Là, on s'écoute entre nous. Et si j'arrive à s'écouter entre moi et un joueur de Dudu, ça peut donner un espace. Parce que la musique, pour moi, c'est pas fait par les notes que tu joues, mais l'espace qu'on laisse entre les notes qu'on joue, ça, c'est très important.
Ah, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a quelques semaines, j'ai reçu Ibrahim Malouf, grand joueur de jazz qu'on connaît tous. Et lui, il connaissait pas le public australien. Il venait découvrir ce public australien. Vous le connaissez un petit peu, le public australien. Quelles sont vos attentes par rapport à ce public? Et est-ce qu'il est un peu différent parce que justement il y a le côté indigène, le côté aborigène, il y a le côté culturel là. Est-ce que c'est un public qui est différent d'un autre?
Je dirais pas différent. Tu sais, en tant qu'un artiste musicien, avec l'expérience, on s'adapte toujours. Que Dieu fait quand on est sur scène. On peut avoir un public en face qui n'a pas l'habitude d'entendre la kora, ou il y a peut-être quelques-uns qui l'ont entendu. Donc, on s'adapte. Les premières 5 minutes de l'artiste, par exemple, moi, personnellement, devant la scène avec un nouveau public, c'est là-bas qui est important pour moi. Ça, c'est le moment que soit se gagne le public ou le public me gagne. Et souvent, 99,9%, ouais, on gagne le public. Parce que c'est ça. C'est les premières 5 minutes de l'accord et l'acte et la connexion entre ce public, parce que l'atmosphère est très importante et c'est ce que tu rapportes. Jouer en Melbourne en manière peut être différente de jouer en Sydney et peut aussi être différent de jouer en Mexico qu'au Sénégal qu'en Paris. Donc ça c'est chacun, on s'adapte. Ça, c'est important. C'est pas le public, c'est ce que tu amènes vers le public. Et où partir avec le public, parce que c'est un voyage. Moi, j'arrive avec mes valises et tout, et ils sont là. Peut-être qu'il y a d'autres qui sont pas prêts à partir, et j'essaie de négocier avec eux pour pouvoir voyager avec moi spirituellement ou naturellement, sans prendre l'avion ni la voiture. Donc ça, c'est notre, ça fait partie de nos bleus. C'est pas comment décrire ça, mais voilà, ça fait partie d'un artiste devant un public que tu connais pas, que tu découvres.
On avait reçu il y a un bon moment, on avait reçu Amadou et Mariam, qui était bien entendu un des fers de lance de la musique malienne et de la musique du pays. On a perdu Amadou il y a quelques mois. C'est très triste. Vous les connaissiez? Est-ce qu'il y avait un échange avec?
Oui, je les connaissais. Paix à son âme, Amadou. La dernière fois que je suis à Amadou, c'est il y a un an, juste avant son décès, en Paris. J'étais avec un ami musicien qui travaille avec Amadou Biloro, qui est percussionniste burkinabé. On était juste au studio, ils finissaient leur dernier album, en fait. J'étais là-bas. Donc, on a parlé, on discutait tranquille, même envisager des collaborations avec eux dans le futur. Mais voilà, Amadou n'est plus là. Mariam est là et son fils est là encore, qui reprend la route. Donc, ils ont bercé beaucoup de personnes avec leur musique douce, sentimentale, tranquille. Musique qui est, je dirais, une musique qui passe partout avec moins d'efforts. Et ça, c'est intéressant. Ils ont fait ça. Et un couple qui vont rester ils ont l'accès à partout, parce que des fois, tu sais, le mandingue est grand, la musique africaine, il y a tout, on a tout là-dedans, en fait. Donc, ce que Amadou et Mariam faisaient, avait l'accès à tout le monde. Tu pars à Paris, en Londres, ou autre, si les gens acceptent cette musique, parce que je dis pas qu'il est simple, je dis qu'il est accessible, parce que j'adore ce qu'ils font aussi.
Absolument, absolument. Et c'est vrai. Et c'est tellement important de rappeler que la musique africaine, voilà, ça, c'est pas une musique du monde. Il y a tout dans la musique africaine. Il y a du rap, il y a du chant lyrique, il y a de la musique classique. C'est faut surtout pas réduire à ce que on peut dire de la musique du monde. J'ai une dernière question pour vous, Sékou. 25 millions de streams sur les plateformes, notamment Spotify. Ça donne le vertige quand on pense à ça. 25 millions de streams. C'est votre chiffre.
C'est bon, ah, ça je savais même pas.
Alors, c'est arrivé là. Ça, mais écoute, j'ai regardé 25 millions.
25 millions, ah, mashallah, comme on dit. Hein. je pense que ils sont généreux, ils sont géniaux, les écouteurs, les gens qui m'écoutent, et ce que je fais aussi, ça ne fait qu'encourager. Ça ne me fait qu'encourager aussi d'avancer de ce que je fais. Et c'est que les gens aiment, parce que la musique, la kora en général, comme je disais, c'est un instrument éthique qui passe partout à nos jours aujourd'hui, qui s'adapte et qui a un côté très spirituel, qui passe un peu partout et qui berce, qui soigne, que tu peux danser avec et tu peux dormir avec même en berçant, tu berces aussi, comme on l'a et comme on le dit. Donc la kora est un peu partout. Mais mon approche de la kora, c'est pas juste jouer les sons traditionnels. Ou la musique que mon grand-père a fait, ou mes tontons, ou mon oncle, mes oncles, c'est juste venir et faire mon empreinte, parce que ça, en fait, le griotisme, comme on le dit, c'est comme un collier avec des perles. Donc, si tu fais partie de ces perles, c'est délicat, c'est important de tenir ce qu'il faut, parce qu'il faut passer à la génération suivante. Sinon, si ces perles passent dans ce collier, tu vois, on perd tout le collier. Donc, ça, c'est important. Et merci encore pour le streaming. Ça peut faire des vertiges, mais je suis heureux et... fierté. Merci encore de me rappeler ça.
Eh ben, c'était un vrai plaisir. Pour moi, c'est aussi un vrai plaisir de vous avoir parlé. J'aime beaucoup ce que vous faites d'un point de vue personnel. Donc, c'est un vrai plaisir personnel de vous parler aujourd'hui. C'est cool. Merci. On mettra toutes les dates de ce qui se passe en Australie et de vos passages à Melbourne, notamment sur notre site internet. Et voilà, encore une fois, c'est un plaisir. Et merci d'avoir accordé un petit peu de temps à Radio SBS et à nos auditeurs.
Merci beaucoup. Merci aussi de m'avoir écouté avec mon franglais, comme on le dit. Et à très vite.
Pas de problème, il était très bon.
Allez, merci beaucoup.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
J'ai quitté mes amis, je cherchais un trésor, j'ai trouvé une famille en or, elle est toutes les couleurs, on partage les mêmes valeurs.
Et c'était la splendide musique de Sekou Keita avec Daraja Family en ce samedi sur Radio SBS. Voilà, c'est tout pour notre émission ce dimanche. Merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite un très bon après-midi à tous. Je vous rappelle également que toutes nos émissions et tous nos podcasts sont disponibles sur notre site internet sbs.com.au/french. Et bien entendu, je vous rappelle également tous nos films disponibles, les films en français disponibles sur la plateforme d'SBS On Demand, sbs.com.au/on-demand. Voilà, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À mardi.
Entendre d'autres rubriques comme celle-ci, écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.